À 6h40, c'est l'heure des enjeux internationaux. Aujourd'hui, au Bhoutan, qui rouvre ses frontières aux touristes ce vendredi, après 2 ans et demi de fermeture pour se prémunir contre la pandémie de Covid-19. Les étrangers qui souhaitent découvrir ce petit pays de l'Himalaya pourront donc entreprendre le voyage, à condition d'en avoir les moyens, car depuis qu'il s'est ouvert au tourisme en 1974 pour faire entrer des devises étrangères, le Bhoutan impose une taxe, fixée jusqu'à présent à l'équivalent de 65 euros pour un séjour, mais qui à partir d'aujourd'hui triple. Il faut désormais s'acquitter de 190 euros officiellement pour contribuer à un tourisme vert et financer par exemple l'entretien des forêts. Alors ce petit pays grand comme la Suisse, coincé entre les géants chinois et indiens, n'entend pas se laisser facilement découvrir. Et c'est bien l'État et la monarchie bouddhiste qui contrôlent cette politique touristique. Bonjour Françoise Pomaret.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, professeure associée au College of Language and Culture de l'Université royale du Bhoutan et vous avez aussi enseigné la civilisation tibétaine à l'INALCO. Françoise Pomaret, cette nouvelle taxe dont doivent à partir d'aujourd'hui s'acquitter les touristes, c'est en fait un nouvel amendement à une loi sur le tourisme qui existe depuis longtemps au Bhoutan. Qu'est-ce qu'elle stipule cette loi? Comment le tourisme est-il encadré, conditionné depuis 1974 dans ce pays?
Bonjour, merci de me recevoir. Il y a eu depuis 1974 une politique qui était toujours de volume de tourisme peu important, mais la politique était toujours d'avoir une taxe de développement, ce qu'on appelle la taxe de développement, et ensuite un tout compris, ce qui fait que le Bhoutan revenait jusqu'à cette année à peu près à 200 à 250 euros par personne et par jour.
Ça, c'était le forfait tout compris, comme vous dites, en plus de la taxe.
Non, ça comprenait la
D'accord.
taxe.
D'accord, ok.
Ça, la taxe était incluse, pardon. Et aujourd'hui, avec la nouvelle loi qui est passée en mois de juin, le tourisme, donc le pays rouvre après 2 ans et demi d'arrêt et la taxe est passée à 200 $ par jour. Donc elle a en effet triplé comme vous le dites, mais les gens peuvent venir, les touristes peuvent venir de façon, disons, ils peuvent venir en individuel, mais il faut toujours qu'ils s'acquittent, passer par une agence de voyage, faire leur réservation d'hôtel, etc.
Voilà, il faut passer par une agence de voyage homologuée par les autorités, faire une sorte de stage à l'arrivée pour apprendre à bien se comporter au Bhoutan. Pourquoi ce choix, dès les années 70, de contrôler à ce point le tourisme? Les pays voisins voyaient déjà à cette époque les effets du tourisme de masse. On parlait déjà de tourisme de masse dans l'Himalaya dans les années 70?
Oui, bien sûr. Au Népal, il y avait déjà, par exemple, un tourisme de masse considérable, je peux en témoigner, et le Bhoutan ne voulait absolument pas, pour plusieurs raisons. La première raison, c'était le manque d'infrastructures. Le Bhoutan n'était absolument pas développé. Il n'y avait pas d'hôtel, peu de routes, peu de voitures, donc c'était impossible d'avoir, et le pays est très peu peuplé, contrairement au Népal. Donc on ne peut pas s'appuyer sur des villages ou des personnes chez qui on peut être hébergé. À l'époque, c'était absolument impossible. Le Bhoutan a donc pris cette... Et puis, il y avait le désir de préserver la culture et les traditions sans avoir l'effet du tourisme de masse. Voilà. Donc ça, c'était la politique au départ. Maintenant, cette taxe a triplé. Et la taxe, il faut bien préciser qu'elle va pour toutes les grandes constructions et le développement du pays. Elle n'est pas une taxe qui s'envole dans le coffre du gouvernement. Donc ça. Et puis, le Bhoutan a été très encouragé, disons, d'augmenter sa taxe aussi par le fait que beaucoup de pays ou même de villes en Europe commençaient à avoir des taxes touristiques pour se prémunir du tourisme de masse.
Alors, vous disiez, Françoise Pomaret, que cette taxe était destinée, a priori, à la préservation de la nature et des paysages et qu'elle ne s'envolait pas dans la nature. Bon, il est vrai que le Bhoutan est toujours très bien placé dans les listes de pays qui luttent contre la corruption ou même qui n'ont pas à le faire parce qu'il reste relativement transparent. Les ONG le mettent souvent en tête de ces listes, en tout cas dans les 20 premiers pays. Bon, même si beaucoup d'ONG ne sont pas présentes au Bhoutan et n'ont pas le droit d'y être, le Bhoutan parle du tout tourisme comme nuisant, s'il est trop massif, à l'identité culturelle du pays. De quelle identité culturelle s'agit-il? Et à ce titre, que plus de 100 000 Népalais vivent aujourd'hui dans des camps à l'écart, interdits de droit de vote, même si certains sont installés au Bhoutan depuis les années 90, qu'est-ce que c'est l'exception culturelle du pays selon le Bhoutan?
Alors, l'exception culturelle, c'est la préservation de la culture. Alors, je peux aussi revenir sur le sujet. Certes, il y a eu 100 000 Népalais dans les camps dans les années 90. Aujourd'hui, il en reste 7 000. La plupart des gens de ces Népalais ont été pris par les États-Unis ou le Canada ou la Norvège ou d'autres pays nordiques. Donc, il ne reste que 7 000 personnes dans les camps aujourd'hui. Donc là, je ne reviendrai pas sur un épisode douloureux qui s'est passé il y a plus de 30 ans. Le pays fait... a changé sa constitution, comme vous le savez, vous avez dit c'est un pays bouddhique. Non, la constitution reconnaît toutes les religions. Et il y a à peu près 25% de la population qui est hindoue, hein, d'origine népalaise, citoyenne, et qui est hindoue. Donc, la religion, il y a des temples hindous qui sont construits partout. Donc, le pays n'est plus bouddhique, mais reconnaît toutes les religions. Alors ça, il faut que ça soit bien clair.
Vous parlez de la constitution qui, elle, date de 2006-2008. Enfin, une monarchie absolue. Le Bhoutan, c'est un régime parlementaire. Le roi est chef d'État, mais pas de gouvernement. Les premières élections législatives au Bhoutan ont lieu en 2008. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'alternance politique, de l'opposition? Qu'est-ce qu'on peut dire du régime du Bhoutan? Est-ce qu'il a, on peut se demander aussi, puisque l'accès aux touristes est très très limité, est-ce qu'il a quelque chose à cacher, tout simplement?
Oh non! Absolument pas, absolument pas. Et je crois que là, c'est vraiment un terme qui ne faut pas employer. Il n'y a rien du tout à cacher. Simplement, il y a un désir d'organiser le tourisme et que le tourisme, par sa taxe en particulier, bénéficie, par exemple, vous avez parlé de la nature, mais aussi les écoles, le développement des écoles, le développement des hôpitaux. Quand je suis arrivée au Bhoutan il y a 40 ans, il y avait 20 000 enfants dans les écoles. Il y en a 160 000 aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un développement du point de vue éducation et de la santé qui est tout à fait remarquable et qui est dû en particulier justement à ces devises et à cette taxe que les touristes apportent. Non, le Bhoutan n'a rien à cacher.
Alors, il y a quand même encore un fort taux de pauvreté. En tout cas, les chiffres dont on dispose, ce sont ceux du Fonds monétaire international. Donc, ce sont ceux que je peux donner. C'est 23% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, 40% qui est analphabète. Mais surtout, le taux de chômage chez les moins de 24 ans, 10% de chômage. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que leurs aspirations ne correspondent plus aux emplois qui existent, qui sont encore très liés à la terre ou aux forêts?
Alors, je vais répondre à votre question, mais avant, je corrige votre chiffre que j'avais déjà corrigé. Il est probablement assez ancien et le taux de pauvreté, c'est 8% et non pas 23%. Voilà. D'une part, donc, dans un pays de 700 000 habitants, vous voyez à peu près ce que ça fait, il n'y a pas de mendiants au Bhoutan. Et les gens peuvent se nourrir puisque la plupart d'entre eux, 95% de la population a ses propres terres. Donc, il y a une pauvreté monétaire, mais il n'y a pas une pauvreté telle qu'on la voit dans les pays avoisinants.
Ou telle qu'on la mesure au FMI, alors.
Alors, l'autre chose, c'est, dont vous me parliez, c'est le taux de chômage. Alors, oui, là, le taux de chômage est inquiétant, surtout le chômage pour les jeunes, qui est à 10%, et qui vient d'une conjonction de facteurs qui se sont installés plus ou moins rapidement. L'un, c'est que justement, à cause du développement de l'éducation qui a été extraordinaire, les jeunes, beaucoup de jeunes, ne veulent plus faire de travaux manuels. Donc, tous les travaux manuels sont ne sont pas
valorisés.
Alors, c'est en train de changer depuis 2 ans. Il y a vraiment un changement incroyable depuis 2 ans, mais ce n'est pas encore en effet dans les statistiques. Donc, les jeunes ne veulent plus veulent uniquement avoir du travail dans les services, dans l'informatique, dans les bureaux, et ils ne veulent pas faire de travaux manuels. Ça, c'est très clair. C'est un des points. L'autre point, c'est que beaucoup, comme vous l'avez dit très justement, beaucoup d'emplois, justement, sont dans les travaux manuels et ne correspondent pas du tout à ce que les jeunes veulent. Donc, il y a vraiment pas du tout de mismatch, de
décalage, en fait, entre...
entre l'offre et la demande. Alors, actuellement, non seulement, je voudrais qu'on en reparle, justement, le Bhoutan est en train de faire une grande réforme, non seulement dans le tourisme, mais qui emploie, en passant, 50 000 personnes, ce qui n'est pas à négliger. Donc, le gouvernement fait aussi une réforme totale de son éducation, de son système d'éducation, en essayant de tourner le système de l'éducation vers des enseignements qui donneraient du travail, dont les enseignements techniques, qui avaient été très, très négligés jusqu'à aujourd'hui.
Et notamment, l'industrie hydroélectrique est toujours aussi développée au Bhoutan. Et est-ce que c'est grâce aussi à cette manne de la taxe touristique ?
Non. L'hydroélectricité est complexe. Elle n'est pas développée par la taxe touristique. L'hydroélectricité les grandes constructions sont faites en partenariat avec l'Inde. Mais aujourd'hui, l'hydroélectricité n'est plus considérée comme l'industrie du futur à cause du changement climatique dont le Bhoutan est carbone négatif, donc n'émet pas de carbone, de CO2, mais subit au premier chef les effets du réchauffement climatique. Et donc la politique est tout. On est là dans une grande réforme politique et économique du pays. Nous entrons dans une nouvelle ère.
Une nouvelle ère au Bhoutan. Un tout petit mot pour conclure, Françoise Pomaret, puisqu'une grosse partie de l'électricité produite, près de 75%, est exportée vers l'Inde. Quelles sont les relations que ce tout petit pays de l'Himalaya, coincé entre la Chine et l'Inde, entretient avec ses deux voisins? Dans quelle situation, disons, géopolitique, diplomatique se trouve-t-il?
Alors, la situation géopolitique, je crois que vous l'avez parfaitement résumée, entre l'Inde et la Chine, qui sont les deux locomotives mondiales et population aussi. Donc, c'est un tout petit pays de 700 000 habitants qui cherche avant tout à préserver sa souveraineté. Et il a d'excellentes relations avec l'Inde, bien sûr, qui est son premier donneur en ce qui concerne l'aide pour le développement, et qui également, le premier port, c'est Calcutta, donc c'est en Inde, et l'Inde exporte également au Bhoutan tous les produits pétroliers et les médicaments. Donc c'est un partenaire important, vital pour le Bhoutan. Pour la Chine, il n'y a pas de relation diplomatique, car pour l'instant, le Bhoutan, ça va probablement changer, mais le Bhoutan n'a pas de relation diplomatique avec les 5 pays du Conseil de sécurité, qui est le reliquat d'une vieille politique du mouvement des non-alignés.
D'accord.
Mais ça va probablement changer.
Merci beaucoup, Françoise Pomaret, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, professeure associée au College of Language and Culture de l'Université royale du Bhoutan. Merci d'avoir été avec nous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.